Chevènement. On fait Chevènement. Tu veux pas faire Jospin?
Non, mais je sais que tu veux faire Jospin. Ça fait depuis le lancement de l'émission que tu me dis que tu veux faire Jospin. C'est
sinon,
bon,
sinon, on tège le texte, on le fait. Moi, je te le fais de tête, Jospin. Le 12 juillet 37, à Meudon, naquit un homme d'État. Cet homme allait bouleverser l'histoire.
On fait Chevènement.
Tu sais que dans sa promo à l'ENA, Chevènement, comme camarade de classe, eh ben, il avait Lionel Jospin. C'est la promo Stendhal, 63-65. Et ouais, je te jure.
Mesdames, messieurs, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un homme qu'on connaît finalement assez peu, alors qu'on le voit relativement souvent à la télé.
On le voit plus que Jospin, hein, parce que lui, il a eu la dignité de se retirer de la vie politique et médiatique au bon moment. Quelle classe!
Chevènement a aujourd'hui 82 ans. Il est plutôt bien portant, on l'invite encore sur les plateaux pour qu'il raconte des anecdotes sur des mecs morts.
Edgar Faure faisait des petits distiques, et je me souviens, j'étais à côté de lui, il écrivait...
Bon, là, d'accord, évidemment,
Et c'est sûr, si on s'arrête à ça...
Oui, non, mais il est vieux aussi.
Mais globalement, bon, quand même, ça va.
En tout cas, il jouit aujourd'hui d'une image de vieux sage.
Vous êtes un sage? Parce que vous dites que vous êtes dans la position d'un sage. Mais vous vous considérez comme un sage en politique?
Ah, ça, c'est à vous de le dire.
Alors, quand il est invité, il va donner son avis de vieux sage sur la politique internationale de la France, décerner les bons et les mauvais points à Hollande, à la gauche, à Macron.
Le président de la République est un homme très intelligent, capable de redresser même ses erreurs. Donc, de ce point de vue-là, je lui fais confiance. Et puis, il n'y a pas d'alternative.
Il n'est plus vraiment dans la vie politique à proprement parler, mais enfin, quand même, il continue à intervenir dans la vie médiatique. Hein. Il a sorti plein de bouquins.
Ouais, puis il faut voir la gueule des bouquins. Hein. On dirait des annuaires, les trucs.
1568 pages imprimées sur papier Bible et en tout petit caractère.
Vous inquiétez pas, elle l'a pas lu. Hein.
De toute façon, ce qui compte, c'est que c'est des bouquins qui servent à justifier une tournée médiatique derrière.
Ouais, parce que tout le monde semble avoir une forme de respect pour la figure et l'héritage de Chevènement. Tenez, même Zemmour kiffe ses bouquins.
Je pense... à 99% la même chose qu'écrit ce livre, mais ça vous le savez, Eric le sait. Donc ça, c'est pas un sujet.
Bon, c'est un peu un sujet quand même, on voit qu'ils ont les mêmes angoisses.
Ah bah, ils ont au moins quelques névroses en commun, mais est-ce qu'on peut s'étonner qu'un mec qui a écrit Le suicide français et La France n'a pas dit son dernier mot soit plein d'admiration pour celui qui a écrit La France est-elle finie?
C'est un livre intelligent, c'est un livre avec une vision, avec une culture historique formidable. Et vraiment, je tiens à rendre hommage. C'est tellement rare d'avoir un livre de cette qualité qu'il faut le dire.
Plus largement, il faut reconnaître que Chevènement, en plus d'avoir été un homme d'État, hein, il a été plusieurs fois ministre, c'est aussi quelqu'un qui appartient à une génération qui accordait une grande importance au travail intellectuel.
Alors que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plutôt des managers carriéristes, des hauts fonctionnaires à courte vue, des technocrates formatés.
Bon, depuis le début de l'émission, Chevènement, vous l'avez vu défendre Macron en reprenant une phrase de Thatcher.
De ce point de vue-là, je lui fais confiance, et puis il n'y a pas d'alternative.
Vous avez vu Éric Zemmour porter au nu son bouquin et dire qu'il était d'accord avec sa vision du monde?
Ouais, là, si vous connaissez pas Chevènement, vous vous dites, bah, c'est un mec de droite. Un mec de droite un peu poussiéreux, mais sérieux, genre Balladur ou Raymond Barre, quoi.
Eh ben, figurez-vous que c'est un homme de gauche, dis donc. C'est même une des figures les plus importantes de la gauche des années 70-80.
Et à plusieurs égards, c'est même un des artisans de la victoire de la gauche en 81.
C'est même lui qui a rédigé en grande partie le programme commun de la gauche. C'est pas rien, mais c'est pas tout. Pour comprendre à quel point Chevènement a pesé dans la gauche française, il faut remonter au congrès d'Épinay, le congrès fondateur du Parti Socialiste tel qu'on le connaît. Mitterrand va rassembler dans un même parti les restes de la SFIO, différents clubs, différentes organisations politiques, syndicales. Le but est de créer un grand rassemblement qui travaillerait à la victoire de la gauche dans le cadre des institutions de la Ve République. Le tout avec un programme de rupture. Vous connaissez forcément cette citation.
La révolution, c'est d'abord une rupture avec l'ordre établi. Celui qui n'accepte pas cette rupture avec l'ordre établi, avec la société capitaliste, celui-là ne peut pas être adhérent du Parti Socialiste.
C'est d'ailleurs cette radicalité qui rend possible l'alliance avec les communistes et donc le programme commun de la gauche.
Et ça, ça va pas de soi. Il y a une partie des socialistes qui se voyaient tout à fait continuer à gouverner gentiment dans des gouvernements centristes, modérés, comme ils l'avaient déjà fait par le passé.
Bah oui, il y a toujours eu des socialistes de droite.
Sauf que l'intuition de Mitterrand, c'est que là, ça y est, le pays est prêt pour avoir une gauche de transformation sociale qui arrive au pouvoir, une gauche de rupture.
Mais ça, il ne peut pas le réussir tout seul. Mitterrand va devoir manœuvrer, ne serait-ce que pour remporter le congrès d'Épinay et faire plier la vieille garde socialiste frileuse à l'idée d'une alliance avec les communistes.
Il lui a fallu pour réussir l'appui du CRS de Jean-Pierre Chevènement, qui ne représente alors que 8,5% des militants. Mais c'est suffisant pour jouer un rôle décisif.
Alors le CERES. CERES, ça veut dire Centre d'études, de recherche et d'éducation socialiste. C'est à la fois un groupe, un courant et un laboratoire d'idées au PS.
Aujourd'hui, on dirait un think tank. Sauf que voilà, à l'époque, il était à l'intérieur du PS et il a fini par représenter à un moment jusqu'à 25% des adhérents du PS.
Vous êtes quand même l'aile gauche du Parti Socialiste.
L'histoire, en effet, veut que nous soyons l'aile gauche. Mais nous ne souhaitons pas être l'aile gauche du Parti Socialiste. Nous voulons être son axe.
Ce courant, qui va essayer de peser sur la ligne du PS jusqu'en 1985, s'appuie sur quelques fondamentaux.
Ouais, c'est un courant qui vient du marxisme, qui est anti-atlantiste sans pour autant être aligné sur les positions de Moscou. Jean-Pierre Chevènement et le CERES dénoncent ainsi l'abandon du thème de l'indépendance nationale par la bourgeoisie et la droite non gaulliste et affirment sa reprise par la gauche socialiste.
Ce qui fait du CERES le point de chute naturel pour des gaullistes de gauche, déjà.
Le CERES agit ainsi contre le mondialisme de la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, décrit comme le nouvel avatar de l'impérialisme, succédant au nationalisme, et de défendre un patriotisme de gauche compatible avec l'internationalisme socialiste. Là, c'est le CERES tel que décrit dans ce bouquin, dirigé par Régis Boula et Renaud Meltz, Chevènement, le dernier des Jacobins. D'ailleurs, c'est paru cette année, en octobre.
Bah oui, bah c'est vous dire si cette figure de Chevènement continue à intriguer beaucoup de monde, et c'est normal, hein, vous imaginez bien. Partir du marxisme pour finir adoré par Zemmour chez Ruquier, c'est bien qu'il s'est passé plein de trucs entre-temps.
Bah, le premier truc qui s'est passé, déjà, c'est la victoire de Mitterrand.
Et là, il faut préciser un truc. Le PS, quand il est arrivé au pouvoir en 81, son but, c'était vraiment d'inventer une nouvelle voie du socialisme. Un socialisme démocratique, à la française. Ils viennent pas là pour gérer les affaires courantes comme la droite, non. Il y a un vrai projet de transformation de la société derrière. Ils viennent pour changer la vie.
Et Chevènement, il fait bien sûr partie de l'aventure. Il est nommé ministre de la Recherche dans le premier gouvernement socialiste en 81, et c'est la première fois qu'il va pouvoir se frotter à l'exercice du pouvoir en tant qu'homme d'État.
Voilà, et son ministère deviendra vite celui de la Recherche et de l'Industrie. Attention, ça compte pour plus tard. Très rapidement, Chevènement va se sentir bien dans ce costume d'homme d'État. Il est loyal à son gouvernement, il ne fait pas de vagues. Celui qui a été considéré comme un dangereux extrémiste de gauche va finalement passer pour un modéré.
D'ailleurs, dans le bouquin, là, il cite des articles de presse. Écoutez ce qu'on disait à l'époque sur Chevènement. Dans le JDD, on peut lire « Il passait pour un dur, il se révèle modéré ». Dans l'Express, il est écrit « L'épouvantail du PS s'est aisément coulé dans les habits de l'homme d'État ». Et le Figaro ira même jusqu'à le qualifier d'ex-gauchiste, dauphin de Mitterrand.
Et là, on voit se dessiner un certain portrait de Chevènement, celui d'un énarque loyal, celui d'un homme d'État qui accepte le compromis et qui tient pour sacré la solidarité gouvernementale.
Bon, après ce compromis, Chevènement, il l'accepte jusqu'à un certain point. Il peut avaler des couleuvres, mais faut pas pousser non plus, c'est pas un macroniste de gauche, le gars.
Oui, c'est vrai qu'au bout d'un moment, il a un point de rupture, parce qu'il a quand même quelques convictions, et ça, il le résume en une phrase, restée célèbre.
Un ministre, ça ferme sa gueule. Si ça veut l'ouvrir, ça démissionne.
Et c'est ce qu'il va faire plusieurs fois. La première démission, elle va survenir en 1983. Il va quitter le ministère de la Recherche et de l'Industrie. Et là, on peut se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le gars était quand même respecté, même le Figaro l'aimait bien.
En vrai, il y avait déjà de l'eau dans le gaz. Il y avait eu un déjeuner sans lui à l'Élysée avec des patrons et Jacques Attali où ils l'ont pourri devant le président de la République. Et la goutte d'eau, ça a été une remarque de Mitterrand lors d'un conseil des ministres en mars 83.
L'exigence d'une politique industrielle cohérente doit se garder d'une bureaucratie tatillonne.
Il met en garde contre un dirigisme incompatible avec le développement de notre économie. Des accusations qui visent directement le ministre de la Recherche et de l'Industrie.
Bon, là, c'est facile de comprendre ce qui s'est passé. Jacques Attali.
Jacques Attali. Comme par hasard, Jacques Attali. Jacques Attali, il est dans tous les complots. Hein. Jacques Attali, c'est un Illuminati, il paraît. Hein.
Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que Jacques Attali, dans l'entourage de Mitterrand, il est sur une ligne politique opposée à celle de Chevènement.
Oui, évidemment, c'est ça que je pensais à ça d'abord.
Le moment qui va cristalliser ces désaccords politiques, c'est ce qu'on a appelé le tournant de la rigueur de 1983. On aurait pu vous faire une vidéo entière sur ce sujet, mais on va essayer de vous résumer un peu. Si en 81, le but c'était d'aller vers le socialisme, Mitterrand va annoncer 2 ans plus tard une pause dans les réformes. Et vous allez voir que le but là, c'est plus du tout de construire le socialisme à la française. Le but maintenant, c'est de...
ramener l'inflation à un niveau comparable à celui de nos concurrents. Rétablir en 2 ans l'équilibre de notre commerce extérieur. Soutenir les entreprises et les équipes de créateurs qui innovent pour exporter.
Ah bah là, c'est plus le marxisme total, hein. Là, c'est plutôt totalement le marché. Et c'est pas que de la faute à Attali, arrêtez d'être antisémite aussi, on rigolait tout à l'heure.
Bah oui, si le PS est traversé par ces dissensions, s'il y a une aile gauche représentée par Chevènement, c'est bien qu'il y a une aile droite pro-business, une aile droite qui pense que la gauche doit s'adapter à l'économie de marché. Une aile qui est représentée par des gens comme Delors ou Rocard.
Les questions qui nous sont posées sont difficiles. Certaines d'entre elles font mal, mais nous n'avons pas le droit d'échouer. Et nous échouerons si nous refusons d'ouvrir les yeux sur la réalité, même quand elle nous déplaît.
Donc en 83, la pause dans les réformes a finalement été une pause définitive, hein, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est les socialistes français qui ont eu la tâche ingrate d'adapter le pays à cette nouvelle donne économique internationale.
Et Chevènement, il n'a pas aimé du tout la victoire de cette ligne.
Cette victoire sera la base de tous les choix ultérieurs qui conduiront à l'Europe libérale. Donc c'est l'avènement du capitalisme financier. C'est le contraire de ce que nous avons voulu faire.
Le contraire.
Le contraire.
Bon, après, il s'y est fait, à ce contraire. Il a réussi à encaisser le choc, hein, ça va. Hein. Un an plus tard, il était nommé à un autre ministère, celui de l'Éducation nationale.
D'ailleurs, ça lui allait très bien, ce poste, hein, parce qu'il avait déjà travaillé sur ces questions au sein du CRS.
De toute façon, vu l'ambiance libérale, il n'était plus question de lui confier un truc en rapport avec l'économie. Peu importe, l'éducation s'est avérée lui correspondre parfaitement.
Ses deux parents étaient instits. À l'âge de 3 ans, il assistait déjà à des cours donnés par sa mère.
C'est ça, il a quasiment grandi dans une école primaire, le tout dans un style très Troisième République.
Ouais, Chevènement, il vient de Franche-Comté. C'est un excellent élève qui a réussi à monter à Paris grâce à une bourse. Il a fait l'ENA. C'est vraiment le parcours idéal typique de la méritocratie républicaine.
Voilà, pour Chevènement, la République, c'est l'école, et l'école, c'est la République.
Alors, rayon. Lecture. Expression orale.
Jean-Pierre Chevènement serait-il le mauvais élève, ou plutôt le provocateur du Parti Socialiste ?
Alors, quand on voit Chevènement, on pense pas trop à un provocateur. Mais si le journaliste dit ça, c'est parce que ses positions détonnaient au sein de son parti.
Bah oui, parce que dans les années 80, la gauche, elle sortait de 68, quoi. Donc, sur l'éducation, elle était encore dans des trucs, l'enfant au centre, moins d'autorité pour le prof, allez, on se met tous pieds nus, on s'assied en cercle, allez, on fume des joints. Voyez, quoi, tous les trucs pédagogos, les trucs de babos. Et cet esprit-là, c'est pas du tout celui de Chevènement. Chevènement, ça a jamais été un hippie. Il a fait la guerre d'Algérie, hein. Même s'il était pour l'indépendance, il y est allé par loyauté pour la France. C'est un bon élève, un bon patriote. Il est très sensible aux notions d'ordre et de mérite.
J'aime mon pays. J'aime beaucoup mon pays. Et je m'intéresse à l'avenir, à tout ce qui touche à l'avenir. Et j'essaye de faire le lien entre mon héritage et l'avenir de notre pays. Et par conséquent, j'avance des propositions qui dérangent. Je pense ne pas être très conformiste.
C'est vrai qu'il n'est pas conformiste. À l'époque, on traitait de réac au PS.
Bon, on l'aurait traité de réac aussi. Hein.
Oui, oui, oui.
Et vous aussi, sans doute. Mais c'est pas que ça, Chevènement. Sa vision un peu datée de l'éducation s'accompagne malgré tout d'une politique volontariste pour favoriser la promotion sociale par l'école. Le truc des 80% d'une classe d'âge au niveau du bac, c'est lui.
Il veut aussi offrir des filières plus qualifiantes aux classes populaires. C'est lui qui va allonger la durée des études professionnelles, il va créer le bac pro et il va aussi mener une importante réforme du lycée. Pour Chevènement, s'il n'est plus possible d'infléchir la politique économique ou industrielle du pays à cause de l'Europe et de la rigueur, l'éducation nationale est encore un ministère dans lequel il est possible d'agir pour l'égalité, mais aussi d'agir pour le pays en lui offrant une main-d'œuvre plus qualifiée, ce qui pourrait être un atout dans la compétition internationale.
L'école devient pour lui un bastion dans lequel peuvent prévaloir d'autres valeurs que celles du marché. Et c'est quoi ces valeurs ? Ce sont celles de la République. Donc s'il n'est plus possible de défendre le socialisme face au marché, alors il faut défendre la République.
Son petit club, le CRS, va donc logiquement changer de nom. En 85, Chevènement rebaptise son courant « Socialisme et République ».
Aujourd'hui, tout le monde ou presque se réclame de la République, mais à l'époque, ça n'allait pas de soi pour la gauche, et vous comprenez bien que dans ce contexte-là, en fait, c'est un discours de vaincu.
Mais oui, le socialisme n'était plus un horizon pour les socialistes, et ils se retrouvent donc en panne de récit. Alors Chevènement, il leur propose la République, et ça n'allait pas du tout de soi pour la gauche.
Et Mitterrand, Delors, Rocard et les autres, eux aussi avaient un autre récit possible pour remplacer le socialisme. Eux, c'était l'Europe, la construction européenne. Et ça, c'est l'acte de naissance d'une énorme fracture au sein de la gauche, l'Europe du marché contre la République souveraine. Cette fracture va devenir particulièrement visible en 1992, lors de la campagne pour le référendum sur les traités de Maastricht.
À cette époque-là, Chevènement vient à nouveau de démissionner, cette fois-ci du ministère de la Défense. Il s'est opposé à Mitterrand sur son atlantisme et son soutien à la guerre du Golfe.
Vous savez, je connais bien François Mitterrand. J'ai fait beaucoup de choses avec lui, ne serait-ce que mettre la gauche au pouvoir. Mais la guerre du Golfe m'a éloigné moralement et psychologiquement de lui.
Donc ça, c'est une nouvelle rupture, mais le coup de grâce, ça va être cette question du traité de Maastricht, là.
Oui, en 92, Chevènement va se mobiliser contre cette vision de l'Europe, une Europe construite par et pour le marché, une Europe libérale. Et il va parfois être applaudi dans son discours anti-Maastricht par des gens de droite, comme le gaulliste Philippe Séguin. Il va courir les plateaux pour défendre un nom de gauche, comme ici, face à Alain Juppé.
En tant que libéral,
oui, je suis conservateur, libéral, je ne suis pas socialiste. C'est
en
vrai.
Tant que conservateur, je vous comprends. Non, libéral, le traité de Maastricht correspond à vos options de fond. Moi, en tant que socialiste, je ne ratifierai pas le traité de Maastricht
tout ça,
parce que ça
Chevènement,
ne correspond
si,
pas
si vous me
à ce que je pense.
Si vous me
mais comme gaulliste, moi, je suis très surpris que vous abandonniez la souveraineté nationale.
Cette période, elle est importante parce qu'elle marque une nouvelle étape dans le rapprochement entre Chevènement et une partie des gaullistes.
Oui, ça fait longtemps qu'on lui reproche de fricoter un peu trop avec les gaullistes et il n'a jamais renié ses sympathies.
Ouais, même à une époque, il proposait de faire des gaullistes la troisième famille de l'Union de la gauche.
La troisième famille, je l'aurais plus volontiers cherchée du côté de ce que j'appellerais la bourgeoisie nationale, dès lors qu'elle accepte les orientations progressistes en matière sociale.
Ce qui le séduit chez les gaullistes, c'est déjà cette idée d'un compromis de classe à l'échelle nationale, cette politique centralisatrice, et puis bon, une certaine idée de la France, une certaine idée de la France dans l'ordre international.
Ouais, une idée de l'indépendance, et l'indépendance par rapport à tout le monde, hein, que ce soit les Américains, les Soviétiques ou même l'Union Européenne.
Et cette question de l'indépendance nationale, elle est centrale dans la pensée de Chevènement, c'est sur ça qu'il écrit le plus, c'est là-dessus qu'on va l'inviter, notamment pour donner son avis sur les plateaux. Et plus les années vont passer, plus les discours de Chevènement vont se recentrer sur ces questions de nation, d'autorité, d'ordre, au détriment des questions sociales et économiques sur lesquelles il semble avoir accepté une certaine forme d'impuissance de la gauche.
Et vu le virage idéologique qu'il a fini par prendre, on ne s'étonnera pas que le poste accordé par Jospin à Chevènement en 97, son dernier en tant que ministre, ce soit l'intérieur.
Et oui, en 97, Chevènement n'est plus au PS déjà depuis quelques années. 4 ans plus tôt, il a fondé le MDC, Mouvement des Citoyens, son propre parti, qui a fini par trouver une place au sein de la gauche plurielle.
Et à Beauvau, il va s'y sentir comme un poisson dans l'eau.
Mais qu'est-il venu faire dans cette galère? C'était la réaction générale de la police et de ses syndicats lorsque Jean-Pierre Chevènement arrivait place Beauvau. On lui reprochait alors de ne pas être un spécialiste. 3 ans et 3 mois plus tard, le changement d'appréciation est spectaculaire.
Il savait établir des rapports de confiance entre les hommes, ce qui était très important, c'est-à-dire qu'il savait écouter, il en tirait les leçons, il décidait, ce qui était le rôle de ministre.
Les syndicats de police, pas encore complètement fascisés à l'époque, vont même apprécier favorablement son bilan. Dans son bilan, il y a par exemple la création de la police de proximité.
Après, sur l'immigration, c'est un peu plus compliqué, alors il va régulariser 80 000 sans-papiers, mais il va le faire en fonction de critères qui vont en exclure beaucoup d'autres.
Vous me dites que vous voulez parler au ministre. Vous allez au ministère de l'Intérieur.
Le siège du mouvement des citoyens, le mouvement de Jean-Pierre Chevènement, investi aujourd'hui par une centaine de sans-papiers de Saint-Bernard. Une façon de rappeler leur colère et leur impatience, malgré la circulaire de régularisation du ministre.
À gauche, certains réclament encore des papiers pour tous, mais ce n'est pas la position de Chevènement et de son parti.
La politique n'a jamais été les papiers pour tous. Si c'est le slogan qui est le vôtre, je dois dire que, et même sous la pression et la présence de beaucoup d'entre vous, ce slogan ne peut pas être satisfait.
Au sein de la gauche plurielle, peut-être plus encore que quand il était à l'éducation, Chevènement, c'est le réac, c'est l'aile droite. Moins de CRS, plus de CRS.
Et encore une fois, il va se retrouver face aux héritiers de mai 68, notamment les Verts, qu'il déteste parce que c'est des européistes convaincus.
Il déteste Dominique Voynet, à l'époque ministre de l'Environnement, et accuse les Verts d'être des libéraux libertaires. Il n'y a pas que les Verts qui trouvent Chevènement trop droitier, il y a même la ministre PS de la Justice, Elisabeth Guigou, qui va torpiller son projet de faire des centres fermés pour les délinquants, là, des petites prisons pour les jeunes.
Mais en 99, Chevènement poursuit sur sa lancée, il va publier un bouquin intitulé « La République contre les bien-pensants ».
Voilà, vous commencez à comprendre pourquoi les droitos, ils le kiffent. Hein. Vous comprenez que les réacs, quand ils regardent ça, bah, ils boivent du petit lait.
C'est ce que j'ai écrit, j'ai bu du petit lait.
Et encore, à l'époque, il n'en est qu'à l'échauffement, il dit toujours quelques trucs de gauche de temps en temps. Ça va changer en 2002, lorsqu'il va se lancer dans sa campagne.
Eh oui, sa campagne, parce qu'en 2002, Chevènement, il est très populaire. Comme ces mecs de gauche, Jacques Delors, Dominique Strauss-Kahn, mais qu'en fait, la droite et les médias aiment bien.
C'est red flag, ça, normalement.
Il est d'autant plus populaire qu'il s'est attiré énormément de sympathie suite à un accident médical hors norme survenu en 1998.
Le ministre de l'Intérieur se trouve dans le coma depuis plus de 24 heures, victime d'un arrêt cardiaque. Le ministre avait été admis au Val-de-Grâce pour y subir l'ablation de calculs dans la vésicule biliaire. Monsieur Chevènement a fait une allergie aux produits anesthésiants contenant du curare. Son cœur s'est arrêté, n'est pas reparti spontanément, mais à l'issue de plusieurs dizaines de minutes de massage.
Suite à ça, il va passer 8 jours dans le coma. Imaginez, remettez-vous un peu dans l'ambiance, un ministre dans le coma, entre la vie et la mort, toutes les rédactions sont en train de préparer sa nécro, le gouvernement réfléchit à faire un hommage national, et là, non seulement le mec se réveille, mais en plus, il est assez en forme pour reprendre son poste quelques semaines plus tard, sans séquelles apparentes.
Ils vont même aller jusqu'à l'appeler le miraculé de la République. Et ça, ça crée de l'empathie, les gens aiment bien ce genre d'histoire, ça fait un peu téléfilm M6.
Enchantée, docteur, je m'appelle Alison Hensley, c'est moi qui vous ai amené le bébé.
Oh, évidemment. Je vous rassure tout de suite, elle va bien.
Et donc le gars, il est populaire, à gauche comme à droite. Pourquoi il se présenterait pas à la présidentielle? C'est ce qu'on fait dans ce pays, normalement.
Bah oui, puis en plus, le 6 juin 2001, dans Le Monde, il y a 50 personnalités qui signent une tribune pour lui demander d'être candidat.
Ouais, et alors là, il y a à boire et à manger. Hein. Il y a Pierre-André Taguieff, l'anti-islamo-gauchiste, là. Il y a les époux Aubrac, hein, des résistants Lucie et Raymond Aubrac. Il y a Gad Elmaleh.
Il n'en fallait pas plus pour flatter Chevènement, qui se déclare officiellement en septembre 2001. Oui, il sera candidat à l'élection présidentielle.
Chevènement, lui, quand il dit oui, c'est oui. Quand il dit non, c'est non.
Quand il dit je sais pas, c'est qu'il sait pas. Quand il dit peut-être, c'est qu'il est pas sûr.
Alors, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que sa campagne, ça va être le bordel. Chevènement, il va se présenter comme étant au-dessus des clivages. Hein. Vous savez, le gaullisme, on est au-dessus des partis, tout ça.
Ouais, et il va attirer tout un tas de soutiens, une troupe hétéroclite, on va dire.
Il va rassembler des gens venus de la gauche, bien sûr, des anciens gaullistes, des gens de droite, mais aussi des gens venus de l'extrême droite. C'est le cas du RPR, William Habitbol, ancien d'Occident et d'Ordre Nouveau, ou encore de Paul-Marie Couteau, ancien du CRS, puis proche de Pasqua, et aujourd'hui au premier rang des meetings de Zemmour.
Et il va même à un moment se rapprocher de Philippe de Villiers, qui va laisser planer le doute. Alors là, autant vous dire que d'avoir le bouffon cathotradi du Puy du Fou qui se rapproche du héros de la République, ça a déstabilisé beaucoup de monde dans les soutiens de Chevènement.
Ouais, mais en tout cas, à cette époque, dans ces soutiens de Chevènement, justement, on trouvait des gens comme Natacha Polony, comme Florian Philippot et même Emmanuel Macron.
Et vous noterez que ceux-là l'ont déjà rejoint à son époque où il est le plus à droite. Ils n'ont pas rejoint le Chevènement du CRS.
Il est temps de revenir aux principes républicains et au bon sens. Il faut fixer des missions claires à l'école. D'abord, la transmission des savoirs, qui passe par l'acquisition des apprentissages de base. Lire, écrire, compter, à l'école primaire. C'est ainsi que nous restaurerons l'autorité des maîtres.
Eh bien, je pense qu'il est temps de faire en sorte qu'aujourd'hui, la République reprenne ses droits dans tous les domaines.
Et dans le bouquin, on trouve des extraits où Chevènement va encore plus loin. Il a notamment parlé de la natalité.
Une grande part des difficultés des retraites provient de la réduction du nombre des actifs du fait d'une moindre natalité depuis 1974. 1974 étant la date du vote de la loi sur l'IVG.
Chevènement propose aussi des baisses de charges pour les entreprises, un aménagement de la loi de 81 sur les retraites à 60 ans et un assouplissement de la semaine de 35 heures. Ça, c'est dans un entretien aux Échos le 13 septembre 2001. On est quand même loin du socialisme jacobin du début. Hein, Chevènement a intégré les principes de l'économie de marché.
La cellule de base de l'économie de marché, c'est l'entreprise, dont la taille est éminemment variable. C'est elle qui crée richesse et emploi.
Bien entendu, l'ancien ministre de l'Intérieur va surtout insister dans sa campagne sur ce qu'on appellerait aujourd'hui le régalien.
Les trucs de droite.
Jean-Pierre Chevènement veut, je cite, « retrouver la France ». Dans son programme, 20 mesures, dont l'augmentation du budget de la défense. Sur la sécurité, le candidat propose une loi pour renforcer la police et la gendarmerie, une autre pour la justice.
Et pour cette époque, notre bouquin de référence, ça va être celui-ci, « L'énigme » de Jean-Loup Colly. Jean-Loup Colly, il a passé 10 ans avec Chevènement.
Le pauvre.
Ouais, il venait du PCF, et le chevènementisme, il en est revenu. Hein. Et donc cette époque-là, c'est encore lui qui nous en parle le mieux.
J'insistais dans les réunions de campagne pour que notre candidat parle prioritairement de la réhabilitation et de la valorisation du travail, de la lutte pour des salaires décents, du maintien du modèle français de sécurité sociale et de services publics, de l'égalité des salaires hommes-femmes ou de la politique familiale.
Bon, nous, on est plutôt d'accord avec Jean-Loup. Normalement, un candidat de gauche, il doit parler de ça. Alors, est-ce que Jean-Pierre, il l'a écouté, son Jean-Loup ?
Bah, attends, on va voir. Jean-Pierre était intellectuellement d'accord avec cette ligne, mais ne parvint pas, malgré de nombreuses initiatives prises en direction du monde du travail, à réellement impulser une campagne à dominante sociale. Il fut d'abord prisonnier du poids de ses propres tropismes. Politique extérieure, sécurité, défense, éducation, politique monétaire, politique industrielle, etc.
La confiance, selon Jean-Pierre Chevènement, c'est aussi le respect de l'autorité, dans la rue ou à l'école. Le candidat s'engage à lutter contre la violence.
Alors, un candidat de gauche qui fait campagne sur des thèmes de droite avec des gens de droite, est-ce que ça fonctionne ?
Ah bah ça marche bien, pour faire perdre la gauche. Chevènement va finir à 5% derrière Arlette Laguiller. Jospin va se faire battre et on va se retrouver avec le second tour, Le Pen-Chirac. Hein, vous connaissez la suite même. Entre les deux tours, tout le pays est secoué de manifs de jeunes. Des manifs anti-Le Pen, des manifs qui rassemblent des milliers de personnes et qui attirent aussi toute une génération qui n'avait peut-être pas trouvé son bonheur dans l'offre électorale.
Au moment où démarre à Paris un nouveau rassemblement dans le quartier de la République, 4 à 5 000 personnes à l'appel du Parti communiste, de la LCR ou des Verts, hier encore divisés, la gauche retrouve sur le pavé un semblant d'unité en défilant, faute de savoir vraiment où aller politiquement.
Ceci dit, il y a un grand absent dans cette mobilisation anti-Le Pen, et c'est le MRC de Chevènement. Et c'est cet épisode qui décidera Jean-Loup Colly à quitter Chevènement. en taxant d'antifascistes émotionnels les millions de gens qui spontanément se mobilisent contre l'extrême droite, le pôle républicain et Jean-Pierre Chevènement démontrent qu'ils n'ont rien compris à ce qui se passe dans la société.
Ce qui désole Colly notamment, c'est que ces jeunes-là dans la rue, eh ben ils s'étaient appropriés les valeurs de la République et ils les mobilisaient précisément contre Le Pen.
Il faut pas oublier que c'est Chevènement lui-même qui a imposé d'apprendre la Marseillaise dans les écoles. Et si les jeunes chantaient la Marseillaise pendant les manifestations, eh ben c'était en partie grâce au long travail de promotion de valeurs de la République de Chevènement.
Aujourd'hui, il en reste quoi de la République telle que l'a défendue cet homme qui venait de la gauche ? Ce que défend finalement Chevènement sur les plateaux, ce sont surtout des conceptions républicaines abstraites, déconnectées des problématiques contemporaines et des préoccupations populaires. La République de Chevènement est réduite à des symboles, des incantations. Elle est réduite à cette injonction à former une communauté de citoyens qui partagerait des valeurs vagues, générales, des valeurs qu'on peine pourtant à retrouver dans la réalité des rapports sociaux. On comprend que cette République-là, la droite s'en soit emparée si facilement.
Pourtant, quand en 85, Chevènement investit cette notion et l'arrime à la gauche, il en a une vision plus ambitieuse. La République ne peut pas se contenter de décréter l'égalité. La République doit produire l'égalité, en matière d'éducation, en matière de conditions de travail, en matière de conditions de vie en général, en fait.
Mais si la gauche est impuissante à produire cette justice sociale, cette égalité, ces conditions de l'égalité, alors elle trahit la promesse républicaine. Et la République, ce n'est plus du coup qu'un discours, un habillage, une façade.
Un discours creux qui va finir par accompagner toutes les politiques néolibérales. La société française va progressivement devenir une société de marché et la République ne sera plus que le langage du rappel à l'ordre.
Alors on aurait pu le voir venir. On vous l'a dit, hein, quand la gauche passe du discours sur le socialisme au discours sur la République, c'est déjà une défaite, une reculade, un abandon. Pour autant, il est peut-être possible de construire un discours véritablement de gauche en partant de cette culture républicaine.
En tout cas, certains le pensent. Ils nous proposent de laisser tomber Chevènement et sa 5e République de gaullistes pour en imaginer une 6e. Montebourg, Hamon ou Mélenchon en parlent depuis des années. Une nouvelle constitution serait pour eux l'occasion de charger à nouveau l'idée républicaine d'un contenu exigeant qui réponde aux aspirations sociales et démocratiques.
Bon, c'est toujours pas le socialisme, hein, on est d'accord, ça va peut-être falloir attendre un peu. Mais bon, au moins, ce serait plus cette république poussiéreuse et abstraite, cette république de Chevènement, de Macron, de Gaulle, de, je sais pas, de plein de monde, du printemps républicain, par exemple.
L'itinéraire de Chevènement est atypique. C'est celui d'un homme qui a su faire preuve d'une grande clairvoyance sur le néolibéralisme, sur la construction européenne, sur des événements comme la guerre du Golfe. Et ses idées résonnent encore aujourd'hui, et certains se réclament encore de lui.
Mais bon, la plupart de ceux qui se réclament encore de Chevènement aujourd'hui mettent surtout en avant ses aspects les plus conservateurs, hein. Mais bon, en même temps, c'est ce que Chevènement nous a fait voir de lui à la fin de sa carrière politique.
Ça, c'était le Chevènement de 2002. Mais celui dont il faudrait s'inspirer, c'est peut-être le jeune Chevènement. Le Chevènement qui a fait l'union de la gauche, le Chevènement qui s'est allié avec les communistes, le Chevènement qui a rédigé le programme commun, et en fait le Chevènement qui a fait gagner la gauche. En fait, le Chevènement qui osait aller contre l'air du temps quand l'air du temps ne lui plaisait pas.
C'est tout pour ce portrait qui va encore énerver des gens, j'espère.
C'est notre travail.
Ouais. Bah, en tout cas, nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau portrait pour Blast.
On rappelle que Blast fonctionne en accès libre, hein, mais vous pouvez quand même vous abonner si vous avez envie de soutenir le site. Alors, n'hésitez pas à donner de la thune.
À Street Press, à Radio Parleur.